Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h.
Darius, est-ce que vous pourriez frapper, s'il vous plaît, avant...
C'est quoi cette histoire? Ariane m'a dit que vous avez refusé de signer mon bon de commande.
Quel bon de commande?
Mais lui, là, j'en ai pas passé 36. Pourquoi vous refusez de le signer?
C'est le bon de commande pour l'INA, les archives vidéo.
Oui, j'en ai absolument besoin de ces archives.
Sauf que votre commande, elle porte sur des archives pour la période 54-62. C'est bien ça que j'ai lu.
Oui.
Et il n'en est pas question.
Et pourquoi?
Mais parce qu'on ne va pas parler de la guerre d'Algérie, Darius. Et en particulier, je vous vois venir, il est hors de question de parler de la torture.
Quoi? Mais si! Ah si! Évidemment, on va en parler de la torture.
C'est non, Darius. J'en ai discuté avec votre mère, elle est entièrement d'accord avec moi. D'un point de vue juridique, avec la torture, on va au casse-pipe. J'ai regardé sur ce sujet. Jean-Marie Le Pen a gagné plusieurs procès en diffamation. Contre le Canard Enchaîné, contre Libération et contre ce réalisateur-là aussi. Comment il s'appelle déjà? Celui qui a fait avoir 20 ans dans les Aurès.
René Vautier. Mais c'est pour un autre film de Vautier que Le Pen a gagné son procès. Un film de 84 qui s'appelait « À propos de l'autre détail » dans lequel Vautier interviewe un Algérien qui prétend que Le Pen, quand il était officier parachutiste, l'a torturé.
L'aurait torturé. Et vous venez de dire vous-même que Le Pen a gagné son procès. Donc, nous, on ne s'aventure pas sur la question de la torture.
Le Pen a gagné son procès parce que c'était couvert par la loi d'amnistie de 63 qui interdisait d'utiliser des images pouvant nuire à toute personne ayant servi en Algérie.
On ne s'aventure pas sur la question de la torture. Point.
Et Le Pen n'a pas gagné tous ses procès, monsieur Poulidor. Il a aussi été débouté de pas mal de plaintes qu'il a déposées contre Rocard, contre Vidal Naquet, contre Le Monde en 2005.
Écoutez, Darius, vous verrez ça avec votre mère. Elle tranchera. Moi, en tant que gérant, je ne prends pas la responsabilité de vous signer ce bon de commande. Et puis, concernant la question de la torture, si les gens veulent se faire une opinion là-dessus, ils n'auront qu'à aller sur Internet.
Ah, alors là, bravo! Alors là, je dis bravo! On est une boîte de production de documentaires et dès qu'on touche à un sujet un peu délicat, on dit aux gens, on ne sait pas, allez voir sur Internet.
L'Algérie n'est pas un sujet un peu délicat en France. La guerre d'Algérie, c'est une machine à baffes. Vous savez comment le général de Gaulle appelait l'Algérie?
La boîte à chagrin.
Exactement, la boîte à chagrin. Darius, on prend déjà des risques énormes en montant ce film sur Le Pen. Je ne veux pas couler ma glande production.
Jeanne revient.
De François Perrache.
Réalisation Cédric Ossir.
Premier épisode, au royaume des aveugles.
Maglan Production, rien à votre service, merci de patienter, je vous reprends tout de suite. Excusez-moi, donc, oui, je vous disais, vous aviez rendez-vous? Je peux vous demander votre nom?
Non.
Comment, non?
Non, je n'ai pas rendez-vous. Mais on m'a dit de passer quand je le désirais.
Bah, qui vous a dit de passer? Quand est-ce qu'on vous a dit de passer?
Hier, par téléphone. Monsieur Maglan m'a appelé et m'a proposé de venir.
Ah oui, Monsieur Maglan. Le problème, c'est que à part moi et Monsieur Poulidor, il n'y a que des Maglans ici. Vous voyez, c'est marqué sur la porte quand vous êtes entré. Maglan Production. Ici, il n'y a que des Maglans. Des Maglans partout. Alors, on va procéder par élimination. Je pense pas que vous vouliez parler à Georges Maglan, paix à son âme, il est mort il y a 10 ans. Et depuis la mort de monsieur, madame Maglan a repris la présidence de la société et elle travaille avec ses deux fils. Alors qui est-ce qui vous a appelé? Darius Maglan ou Benjamin Maglan?
Écoutez...
Bon, et votre nom? Votre nom à vous? Vous le connaissez votre nom?
Oui, mais précisément, monsieur Maglan m'a dit que je pourrais rester anonyme.
Écoutez, monsieur, moi je veux bien être patiente, mais si vous ne me dites pas ni qui vous voulez voir, ni comment vous vous appelez...
Nestor. Dites-leur que c'est de la part de Nestor.
Nestor. Oh la vache! Je veux dire... Oh, désolé, je suis désolé, vous êtes Nestor! Le Nestor, Nestor de... De Montretout.
J'ai retrouvé un texte de lui quand il était député, et ça va tout à fait dans le sens de ce qu'il dit. Il peut pas lire ça dans ses meetings, hein. Ce qu'il faut dire aux Algériens... C'est pas qu'ils ont besoin de la France, mais que la France a besoin d'eux. C'est qu'ils ne sont pas un fardeau, Ils sont une dynamique et le sang jeune d'une nation française dans laquelle nous les aurons intégrés. Donc c'est vrai qu'il était pour l'intégration. Et donc il n'y a plus de raison qu'il fasse chauffer ses meetings en donnant des musulmans à manger aux fanatiques du Front National parce qu'il n'est pas pour ça.
Vous êtes un grotesque.
Ensuite, monsieur.
Vous êtes un pitre, monsieur.
Vous avez dit. Allez, attendez. Attention.
Écoutez, vous êtes un pitre.
Vous avez dit. Il y a une limite. Vous dépassez la limite.
Ne dites pas d'énormité comme ça. Et ne me menacez pas physiquement, monsieur Taspi. Il vous en cuirait.
Parce que vous avez votre garde du corps, là.
Non, moi.
Un peu rigolo. Enfin, regardez-vous.
Regarde-moi. Regarde la caméra.
Comme ça?
Ouais. Un peu plus à gauche. Voilà. Parfait. Bouge plus. Alors, par contre, je crois qu'on va enlever le bandeau. Ça fait trop.
Ah, bah ok. Non, mais je pensais, comme il est borgne, pour la composition du personnage...
Ouais, mais non, il l'a enlevé il y a presque 50 ans, quand même.
Ouais, bien sûr. Et pour la voix, bon, faut que je travaille encore un peu, mais je regarde plein de vidéos, là, en ce moment.
T'inquiète, là, de toute façon, je regarde juste à la caméra ce que ça donne, pour voir si ça colle physiquement. Parce qu'il est quand même costaud, le bonhomme. Il a fait 3 guerres. Toi, t'as fait l'armée, d'ailleurs?
Oui, j'ai fait mon service militaire en 76. Bon, dans des bureaux, mais...
Et tu fais du sport, un peu?
Un peu, oui. Enfin, très peu, en fait.
Et je t'ai pas demandé, mais ça te dérange pas, évidemment, de jouer ce rôle?
Bah non. Pourquoi?
Super. Bon, allez, on y va pour un essai. T'es prêt?
Prêt.
Essai Jean-Marie, première. Quand tu veux. Ça tourne.
Pardon, j'ai juste une dernière question. Enfin, j'ai pas bien compris. C'est quel genre de film, en fait?
Un documentaire.
Une fiction.
Un documentaire.
Un docu-fiction?
Non.
Bon, maman, qu'est-ce que t'en penses?
Bah oui, tu dis rien depuis tout à l'heure.
Je ne sais pas, Darius, je ne sais pas. Je ne sais pas, mes chéris. Cette maison fait du documentaire politique depuis 40 ans.
Justement, il faut se renouveler. Il faut qu'on se lance dans la fiction.
Ah, se renouveler, tu parles? Non mais avoue, Benji, avoue que c'est juste que t'en as ras-le-bol de tourner du docu classique et que tu rêves de réaliser des films d'action, des films de KPDP. Mais c'est pas du tout notre cas.
Darius, je te dis juste qu'avec Le Pen, on a un super matériau pour faire de la fiction. Enfin! Enfin, un homme politique intéressant à filmer. Qu'est-ce que je dis? Un homme. Toute une famille. Jean-Marie, Marie-Caroline, Yann, Marine, Marion. Et je vous parle même pas des épouses, des maris, des gendres, des cousins, des chats, des clébards et des poissons rouges. Toute une saga politico-familiale. C'est unique.
Les familles de politique, ça a toujours existé sous la Ve République. Les Debré, le Coupolon Royal...
On pourrait même dire que les familles de politique, ça existe depuis au moins Pépin le Bref et Charlemagne. Tous rois de France de père en fils.
Et ces liens familiaux chez les Le Pen, on peut parfaitement les raconter sous forme de documentaire. Je vois pas l'intérêt d'en faire une fiction, d'aller inventer des trucs.
Mais on n'invente rien. On raconte les faits, rien que les fait, mais de l'intérieur. Avec les Le Pen, on a enfin la matière pour faire un vrai polar politique. Enfin! Depuis 40 ans, cette boîte fait des films tous plus soporifiques et sinistres les uns que les autres.
N'exagère pas.
Si, maman, excuse-moi, on les a tous filmés, les comiques de la Ve République. Giscard, Delors, Juppé, Jospin. On filme que des vieux mâles blancs en fin de course.
C'est ça, la politique en France. On fait du documentaire politique, donc c'est comme ça. On filme des vieux.
Quand je regarde le catalogue de Maglan Productions, j'ai l'impression de voir un trombinoscope de maison de retraite.
Ça suffit, les garçons. Un peu de respect pour la mémoire et l'œuvre de votre père.
Mais franchement, Benji, je comprends pas ton enthousiasme à vouloir faire ce film sur Le Pen. On va faire son portrait comme on a fait celui des autres, c'est tout. Il est pas si différent des autres, d'ailleurs. Je te rappelle que Le Pen, c'est l'archétype du vieux mâle blanc en fin de course, comme tu dis. Il est député depuis 1956.
Élu à 27 ans, plus jeune député de la législature, comme sa petite fille, comme Mario.
Non.
Non?
Il n'était pas le plus jeune député élu en 56?
Moi aussi, j'ai lu ça partout.
Oui, mais non. T'as lu ça partout, mais c'est une légende. Que Le Pen a toujours entretenu. En tout cas, il laisse dire. Il entretient la confusion avec l'élection de sa petite fille Marion, qui, elle, a bien été la plus jeune élue de toute la Ve République à 22 ans.
22 ans, mais comment tu peux être député à 22 ans?
Les jeunes, c'est une tradition au FN. Aux dernières élections, Marine a choisi une tête de liste ultra jeune, histoire de faire chier Marion.
Et le FN a aussi eu le plus jeune sénateur jamais élu. David Racheline, sénateur à 26 ans.
Ça a dû leur faire bizarre au palais du Luxembourg de voir débarquer un collègue qui pourrait être leur petit-fils.
Alors évidemment, tous les articles pour l'élection de Marion à l'Assemblée en 2012 ont fait le parallèle avec l'élection de Papy en 1956. Et comme les médias vérifient les infos de leurs collègues quand ils ont le temps... Bref, non. Le plus jeune élu en 56, c'était pas Le Pen. C'était un communiste, figurez-vous, qui s'appelait André Chêne. Ils sont nés en 1928, tous les deux, mais Le Pen est né le 20 juin, alors qu'André Chen est né à Noël. Il avait 6 mois de moins que Le Pen.
Mais on s'en fout, Darius, c'est des détails tout ça.
Alors avec Le Pen, je vous propose d'éviter le mot détail.
C'est pas les dates qui comptent, Darius, pour raconter une histoire. Dans les scripts que tu nous ponds, il faut toujours bien donner toutes les dates dans l'ordre, citer exactement les discours et les sources, bien expliquer tout le contexte historique. C'est chiant comme la mort. C'est pas moi qu'on est plein le dos des documentaires maglans, frangin. C'est le public. T'as qu'à voir nos ventes.
Alors, si je peux me permettre...
Oui, Benjamin, pour faire du documentaire, il faut se documenter. Et nos films sont surtout chiants, comme tu dis, parce que tu sais pas filmer. T'as jamais su faire vivre à l'écran l'action politique.
Alors, si... Mais quelle action politique? Ça n'existe pas, l'action politique. Y'a rien à filmer en politique. C'est des mecs qui parlent, ils parlent, ils font ça, ils parlent. Alors que dans l'histoire des Le Pen, y'a des morts, des assassinats, des attentats, des vrais attentats, avec des bombes et tout. Pas des farces comme Mitterrand dans les jardins de l'Observatoire, ou De Gaulle qui se prend un peu de chevrotine dans sa DS. Il faut faire un film d'action.
Si je peux me permettre d'intervenir. C'est un fait que notre chiffre d'affaires, comme vous le savez, est en baisse nette et régulière depuis plusieurs années. Et sans interférer sur vos choix éditoriaux, bien sûr. Moi, je ne suis que le gérant de cette entreprise. Je fais seulement parler les chiffres.
Bon, allez au fait, monsieur Poulidor, c'est quoi votre avis? D'un point de vue économique, qu'est-ce qui est le mieux pour Maglan Productions? Un documentaire sur Le Pen ou une fiction sur Le Pen?
Une fiction se vendrait probablement beaucoup mieux qu'un énième documentaire.
Même Poupou est de mon avis.
J'aimerais bien, Benjamin, que vous cessiez de m'appeler.
Oui? Excusez-moi, monsieur Poulidor, c'est juste pour vous dire que monsieur Moati vient encore d'appeler. Il n'a toujours pas été payé pour son documentaire sur Benoît Hamon. Il voudrait nous proposer un nouveau projet de film.
Oh, encore? Un projet sur quoi?
Si j'ai bien compris, ce serait un film autour de la garde-robe de Brigitte Macron pendant ses déplacements officiels. Bon, je lui ai dit d'envoyer un mail.
Très bien.
Ah! Et, madame Maglan, le fameux Nestor est arrivé. Je me suis permis de l'installer dans votre bureau.
Parfait, je vais le recevoir tout de suite avec Benjamin.
Entendu. Je vous apporte 3 cafés dans
le bureau. Non. Merci, Ariane. Bon, fin de la réunion.
Et on décide quoi alors pour Le Pen? Fiction ou docu?
Et c'est qui ce Nestor?
C'est un pseudo, évidemment. C'est un ancien majordome de la famille Le Pen. Il les a servis pendant 30 ans à Montretout. C'est moi qui l'ai dégoté, en surfant sur des sites d'extrême droite.
Tu vas sur des sites d'extrême droite?
Y a pas que toi qui te documente. Hein, j'ai plein de questions à lui poser, à ce Nestor.
Et vous m'en avez pas parlé?
Je pensais que ton frère l'avait fait.
Je peux être là, au moins, à l'entretien. Moi aussi, j'ai plein de questions.
Non, Darius, pour ce premier entretien, je préfère qu'il n'y ait que ton frère et moi. Je ne voudrais pas que ce Nestor prenne peur et qu'il nous file entre les doigts.
J'ai eu beaucoup de mal à le convaincre de venir. Il doit avoir plein de choses à raconter pour enrichir le film. Des dates, des anecdotes. Et je voudrais aussi qu'il vienne voir le décor que j'ai trouvé en banlieue, où on pourrait filmer les scènes qui se passent à Montretout.
Les scènes qui se passent à Montretout? Ah, parce que ça y est. Ça y est, c'est décidé. On va filmer des scènes qui se passent à Montretout. Hein? Donc, tu décides tout seul, en fait, Ben. Ça y est, t'as décidé. On fait de la fiction. Et donc, notre réunion, là, depuis une heure, elle servait à quoi, en fait?
J'ai juste pris un peu d'avance, au cas où on se déciderait très vite. Alors oui, évidemment, j'ai fait un peu de prépa, de repérage. C'est du boulot, un tournage, Darius, ça s'improvise pas.
Et moi, tu crois que je faisais quoi pendant ce temps-là? Que je peignais la girafe? J'ai lu tous les bouquins qui existent. Et crois-moi, il y en a. Les Le Pen, ça passionne les journalistes. J'ai bouffé du Le Pen depuis des semaines. J'ai des kilomètres de notes sur tous les membres de la famille. Des heures d'archives.
Bon, du calme, les garçons. C'est très bien que vous ayez travaillé tous les deux. Ce sera autant de temps gagné. Et non. Non, on n'a rien décidé du tout. Et j'ai encore un peu besoin de réfléchir. Même si c'est vrai que l'argument économique de M. Poulidor me ferait plutôt pencher pour une fiction.
C'est une connerie, maman.
De toute façon, c'est trop tard.
Et pourquoi trop tard? Parce que tu as déjà fait des repérages?
Des repérages? En fait, j'ai aussi fait passer quelques castings.
Des castings pour? Des comédiens? Des comédiens pour jouer les Le Pen? Oh putain, Benjamin!
Sans m'en parler?
Oh putain!
Bon, mais vous n'avez pas pris d'engagement. Vous n'avez pas encore signé de contrat avec ces comédiens. Si?
Oh putain!
Sans m'en parler!
Vous verrez, mais c'est un acteur formidable! Il fait exactement 1m77, comme Le Pen. Il a sa corpulence et en plus, il m'a dit qu'il l'imitait à la perfection.
Vous vous avez regretté à un moment donné ou à un autre?
Pas du tout. À aucun moment, ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre que ce soit la guerre qui soit un détail des chambres à gaz.
Ces propos. Ouais. Oui, absolument, je les maintiens.
Donc, absolument.
Parce que je crois que je c'est la vérité, oui. Et que ça ne devrait choquer personne.
Et voilà.
Oui, absolument, je les maintiens, parce que je crois que c'est la vérité, et que ça ne devrait choquer personne.
Oui, absolument, je les maintiens, parce que je crois que c'est la vérité, et que ça ne devrait choquer personne. Absolument, absolument. Putain d'adverbe...
Qu'on a instrumentalisé cette affaire contre moi en y introduisant un soupçon d'antisémitisme, alors que je mets au défi quiconque de citer une phrase antisémite dans ma vie.
Des millions de morts, c'est un point de...
Alors...
Monsieur Durafour et Dumoulin, obscur ministre de l'ouverture, dans laquelle il a d'ailleurs immédiatement disparu, a déclaré: nous devons nous allier aux élections municipales, y compris avec le Parti communiste, car le Parti communiste, lui, perd des forces, tandis que l'extrême droite ne cesse d'en gagner. Monsieur Durafour crématoire, merci de cet aveu.
Monsieur Durafour crématoire, merci de cet aveu. Monsieur Durafour crématoire, absolument. N'est-ce pas? Et...
Première fois que vous êtes victime d'un attentat?
Oui, c'est le troisième. C'est un record peu enviable.
Alors quel est votre sentiment?
Écoutez, je ne peux relier ça qu'à notre congrès national dont le thème était justement la sécurité des Français et la lutte contre le crime. Alors je pense que c'est un retour de manivelle des criminels. Je peux l'interpréter comme ça.
Celle-là, elle doit dater du début des années 70. Elle est prise, je pense, depuis le perron. Oui, c'est ça. C'est une vue sur Paris et une partie du parc.
Tout ça, c'est seulement une partie du parc?
Oui, il y a autant de surface et même un peu plus de l'autre côté du pavillon, à côté des écuries. En tout de mémoire, il y a 5000 mètres carrés, enfin, de parc. N'allez pas vous imaginer quelque chose de somptuaire, disons que c'est un beau jardin, mais d'un entretien difficile.
Très beau, alors. 5000 mètres carrés dans Saint-Cloud, juste à côté de Paris.
Je crois que c'est le plus grand jardin de tout le domaine, parce qu'il y a une confusion. Les gens pensent souvent que Montretout appartient au Le Pen. Mais dans ce qu'on appelle le domaine de Montretout, il y a de nombreuses propriétés. Et celle de la famille Le Pen n'est pas la plus belle. Ils ont beaucoup de voisins plus fortunés qu'eux. Des vedettes de cinéma, des chefs d'entreprise.
Et ces bâtiments, c'est quoi?
À gauche, là, vous avez ce qu'on appelle les écuries. Et à droite... C'est chez moi. Enfin, c'était chez moi. C'est le pavillon du gardien où j'ai passé toute mon enfance avec mes parents. D'ailleurs, c'est moi, là. J'avais 16, 17 ans là-dessus.
Et vous êtes né à Montretout?
Oui, et j'ai pris la succession de mon père, qui était gardien du domaine pour les propriétaires précédents, la famille Lambert.
Ah oui, le fameux Lambert qui a fait la fortune des Le Pen.
Encore une histoire compliquée. Hubert Lambert était un des héritiers d'une grosse entreprise de matériaux de construction. C'était un proche de Pierre Poujade, et Jean-Marie Le Pen en avait fait son conseiller sur les affaires militaires. Il l'avait même nommé au comité central du parti, je crois. Mais M. Lambert était, disons, de santé fragile, et à sa mort prématurée, en septembre 1976, il a fait de Jean-Marie Le Pen son légataire universel.
Et il y a eu procès pour la succession.
Les deux familles ont fini par trouver un accord à l'amiable. Mais la transition à Montretout, oui... a été particulièrement violente.
Violente comment?
Un carnage, au sens propre. En novembre 1976, la famille Le Pen est victime d'un attentat en plein 15e arrondissement de Paris. Tout leur immeuble de la Villa Poirier est soufflé. Plusieurs kilos de dynamite déposés devant leur porte du 4e étage. Énorme explosion. Aucun mort. Un miracle. Pierrette Le Pen raconte que le premier réflexe de son mari a été de redresser le poste de télévision qui était tombé au sol. Le président a toujours eu beaucoup de sang-froid. La petite Marine avait 8 ans au moment de l'attentat. Ça l'a profondément marqué.
Et Lambert?
La famille Le Pen a toujours soutenu que cet attentat était politique, mais c'était probablement lié à la succession Lambert.
Un attentat?
Tu vois, maman, quand je dis que c'est un film d'action.
Bon, on va pas faire sauter un immeuble pour les besoins du film. Mais effectivement, un héritage qui se règle à la dynamite, c'est plus marrant à filmer que de raconter une réunion chez le notaire.
Et à Montretout, le changement de locataire, ça a été quelque chose. Deux jours avant la Noël 1976, je me souviens très bien, toute la famille Le Pen, dont l'appartement venait de sauter, a débarqué au domaine pour occuper les étages du pavillon dont ils venaient d'hériter. Le problème, c'est que la partie basse du pavillon était encore occupée par un des cousins d'Hubert Lambert, Philippe, qui vivait là avec sa femme et leurs deux filles. Et il contestait l'héritage, bien sûr. Deux ennemis sous le même toit. Drôle d'ambiance. Ils ont fini par trouver un accord financier, mais avant, ça a été des insultes, des menaces. Monsieur Lambert a même fait construire un mur pour condamner l'accès aux parties communes.
Et vous avez travaillé, vous, pour les Lambert ?
Non. Mais c'est à cette époque que j'ai pris la suite de mon père. Lui voulait rester fidèle à la famille Lambert, et je me suis mis au service des Le Pen à Montretout. Mon père m'en a longtemps voulu. Ah, je peux même vous dire la date précise. J'ai pris mon poste en 78 exactement. Puisqu'une des toutes premières réceptions que j'ai dû organiser au domaine, c'était pour les 50 ans du président. Ça commençait très fort. Par la suite, la famille a multiplié les soirées incroyables. Nous avions parfois plusieurs centaines de personnes, de toutes les générations, de tous les milieux. Chacune des filles Le Pen avait aussi droit à son quota d'invités.
Oh, il y avait qui comme invité, par exemple ?
Des politiques, bien sûr, et même des têtes couronnées du monde entier, mais aussi beaucoup de personnalités du spectacle, des médias. Alain Delon, très souvent. Olivier de Kersauzon, qui faisait du bateau avec Éric Tabarly et le président dans leur jeunesse à la Trinité. Monsieur Mourouzi était là régulièrement. Le chanteur Mouloudji.
Ah bon ?
Oui. Monsieur Le Pen fréquente des gens d'horizons très divers. C'était un grand copain de Claude Chabrol, par exemple, qui disait en riant de son copain Jean-Marie qu'il était un fou la merde.
Ça m'étonne qu'à moitié. Chabrol a toujours eu un petit côté anard de droite. Et Darius m'a raconté qu'un an avant la création du FN, Le Pen a rédigé son mémoire de Sciences Po sur les mouvements anarchistes en France depuis 1945.
Et qui d'autre à Montretout ?
Lino Ventura aussi était un voisin, mais on le voyait peu. Plus tard, on aurait pu croiser dans une même soirée aussi bien une ancienne vedette de télé-réalité qu'un prétendant au trône d'Espagne ou des personnalités désormais plus sulfureuses comme Monsieur Dieudonné.
Le Pen est le parrain de sa fille, je crois.
Oui, c'est Monsieur Dieudonné lui-même qui est venu spontanément en 2008 à Montretout pour demander à Monsieur Le Pen de la parrainer. Le président a plus d'une vingtaine de filleuls, je crois, dans toute la France. Il a accepté d'autant plus volontiers que la mère de la petite est bretonne. Il l'appelle une fois par an pour prendre de ses nouvelles.
Et c'est ici que vous avez grandi,
oui,
donc.
J'ai vécu dans la maison des gardiens de ma naissance jusqu'en l'an 2000. C'est l'année où Pierrette est revenue à Montretout.
Pierrette, on est d'accord, c'est la première femme de Jean-Marie. Et elle est revenue s'installer à Montretout après leur divorce? Je croyais qu'ils étaient fâchés à mort.
Oui, les relations ont été longtemps très compliquées. Mais Pierrette reste la première épouse du président et la mère de ses trois filles. Ils sont restés mariés 27 ans et elle a joué un rôle très important pour le lancement de sa carrière. C'est elle, notamment, qui a suggéré au président d'ajouter Marie à son prénom.
Comment ça ?
À l'état civil, M. Le Pen s'appelle Jean, tout court. Comme son père qui était marin-pêcheur et qui l'a perdu fort jeune. C'est Pierrette qui lui a suggéré d'ajouter Marie à son prénom pour séduire l'électorat catholique aux législatives de 1956. Et ça a fonctionné.
Grâce à Pierrette.
Alors, quand elle a connu des difficultés financières, le président lui a proposé de revenir s'installer à Montretout. Jeannie, la seconde épouse du président, a été impériale. Et la cohabitation s'est très bien passée depuis. Pierrette s'est installée dans le pavillon du gardien. Et je suis parti habiter dans une autre annexe du domaine.
Alors, je me situe pas bien. Elles sont où, ces annexes, par rapport à la maison principale ?
Ah, pardon. Et bon, évidemment, moi, je connais la maison depuis mon naissance. Donc, puis-je vous prendre cette feuille ? Le plus simple est que je vous fasse un croquis. Donc, Montretout. En venant de Paris, vous prenez le pont de Saint-Cloud. Vous montez sur un kilomètre environ. Là, vous avez l'entrée du domaine avec toutes les propriétés.
Et on pourrait aller y faire un tour ?
Ah non, il y a les grilles. Propriété privée, digicode, caméra, chien méchant. Les habitants de Montretout aiment la tranquillité. Donc, passé les grilles, on prend là, puis ici, la petite allée, dont on doit refaire le revêtement depuis des années, d'ailleurs. Et on arrive au numéro 8. D'un côté, là, c'est notre voisin, un charmant patron de boîte de nuit. Et la propriété Le Pen est ici, ce grand rectangle. Et donc, si j'agrandis ce rectangle et qu'on entre un peu dans les détails de la propriété, vous avez presque au milieu du parc ce qu'on appelle le pavillon de l'écuyer, qui est le bâtiment principal.
Donc ça, c'est la maison de Jean-Marie Le Pen. Il y a combien de pièces ?
11. Mais le président n'y habite plus depuis des années. Yann, sa deuxième fille, occupe encore le second étage, mais désormais, il n'y a que des bureaux, notamment celui du président au premier étage, avec un balcon et une vue imprenable sur Paris. Il vient encore y travailler tous les après-midi. Et juste à côté, le bureau de son assistant personnel, qui est installé dans l'ancienne chambre à coucher des Le Pen. Et donc, si on sort dans le parc, vous avez plusieurs bâtiments, dont le pavillon des gardiens, et juste à côté, les anciennes écuries.
Elles sont occupées ?
Oui, bien sûr. C'est la petite dernière, Marine, qui habitait là. C'est un assez modeste appartement, mais elle était bien, tranquille, autonome, au fond du parc, près de son père, mais pas trop. Et elle pouvait faire des fêtes. Et quelles fêtes ! J'ai dit habiter, parce qu'elle nous a quittés à l'été 2014. Quelle tristesse ce départ. La presse a inventé toute une histoire.
Une histoire ?
Ridicule. Une histoire ridicule. Il faut savoir que Marine adore les chats. Elle a toujours aimé les chats. Elle dit elle-même qu'elle est une mère à chats. Et quand Artemis, la chatte préférée de Marine, s'est fait tuer par les chiens de son père, deux bouviers bâtards très beaux qui s'appellent Sergent et Major... Oui, non, le président a beaucoup d'humour. Les Doberman qu'il avait avant eux s'appelaient Gitane et Gauloise. Bref, quand Artemis, la chatte de Marine, est morte en 2014, les gens ont raconté que c'était pour ça que Marine avait quitté Montretout. La vérité, c'est qu'au mois de juin 2014, le président a fait une déclaration malheureuse dans une vidéo sur un chanteur populaire à l'époque. Une sombre histoire de fourronnée. Mais moi, je ne fais pas de politique. En fait, c'est ridicule, cette histoire de chat. Mais c'est vrai que Marine a beaucoup pleuré ce jour-là. Elle est restée enfermée des heures dans sa chambre. Bref, Marine a quitté Montretout à l'été 2014. Elle a libéré les écuries et depuis c'est sa mère, Pierrette, qui a repris son appartement.
Ah oui, c'est un vrai retour en grâce pour Pierrette.
Disons que la hache de guerre est enterrée. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis l'opération Bonne Maman.
L'opération quoi ?
Ah, le grand coup d'éclat de Pierrette, qui a fait exploser toute la famille et a même eu d'incroyables conséquences politiques sur le Front National.
Et c'est quoi l'opération Bonne Maman ?
Elle faisait des confitures, Pierrette.
Non, pas vraiment, non.
C'était
Jeanne revient.
La véritable histoire de la famille Le Pen.
De François Perrache.
Premier épisode. Avec
Christine Gagneux,
Éric Berger,
Elios Noël,
Clémentine Verdier,
Gabriel Ledose,
Philippe Duquesne
et Jean-Claude Bolreda.
Bruitage, Bertrand Amiel.
Prise de son, montage, mixage, Stéphane Desmonts, Cédric Chatelus.
Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux.
Réalisation, Cédric Aussire.